Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
On en parle beaucoup depuis hier. L'édition 2016 du Guide Michelin vient de sortir avec son lot de consécrations, mais aussi, comme chaque année, quelques rétrogradations. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui l'histoire de ce guide. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Quels meilleurs invités pour évoquer cet autre petit livre rouge que le guide gastronomique vivant de cette émission, Nicolas Drabaudy, et le directeur des guides Michelin, puisqu'il est là en personne avec nous, Michael Ellis. Je suis heureux de les recevoir l'un et l'autre après la grande messe à laquelle j'ai eu le privilège d'assister hier matin. Cette présentation à une presse avide et gourmande des nouveaux chefs étoilés. Une grosse cinquantaine de maîtres queues, dont 42 ont reçu hier leur première étoile et qui a tendance à éclipser les centaines d'autres professionnels reconnus et consacrés par ce qui est devenu au fil des décennies une sorte de bible de la gastronomie française. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres guides, et comment sur Europe 1 ne pas citer Goemilio notamment. Mais le Michelin est le plus ancien, le plus connu, celui qui, disons-le, fait un peu la pluie et le beau temps dans l'univers de cette gastronomie française qui n'en finit pas de faire rêver. Il faut dire à quel point, dans un contexte morose pour le moins, et alors qu'on voit décliner des pans entiers de la culture et de l'économie nationale, la table, et quand je dis la table, sont les grandes tables autant que les petites, la table, la grande cuisine, la pâtisserie, puis aussi l'hôtellerie, le tourisme de charme, tout cela continue de passionner, de fasciner les Français, et pas seulement les Français bien entendu. Ça ne veut pas dire que le guide Michelin soit au-dessus des critiques et même des contestations, vous aurez pu le constater depuis 24 heures, mais la passion même qui s'immisce dans le débat démontre que sa parution est un événement et son magistère un fait historique. Pour ouvrir cette émission, je vous propose de faire connaissance avec une dame qui, dans l'entre-deux-guerres, cumulait déjà 2 fois 3 étoiles au Michelin.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Anastasia qui veut en savoir plus sur les origines des nappes et des serviettes.
Eh bien, ça tombe bien. Allez, à table.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Cumulé 2 fois 3 étoiles au guide Michelin dès 1933 et pour 2 restaurants bien distincts évidemment, quand on est une femme, vous avouerez qu'il y a quelques raisons de se pencher sur l'étonnant destin d'Eugénie Brasier. L'un des 2 restaurants était situé à Lyon, l'autre au col de la Luère, on y reviendra tout à l'heure bien entendu. Et Eugénie Brasier restait, malgré toute cette consécration et malgré ses 2 fois 3 étoiles, elle restait une femme modeste. « J'ai appris la cuisine en la faisant, tout simplement », disait-elle. Quelques plats typiques de la mère Brasier, comme on la nommait, pour vous mettre en appétit. Il est 14h06, mais certains d'entre vous ne sont peut-être pas encore passés à table. Des fonds d'artichaut au foie gras, de la volaille de Bresse demi-deuil aux petits légumes, un gâteau de foie de volaille, des quenelles au gratin, une langouste belle aurore, une galette bressane accompagnée de glace vanille et recouverte de chocolat chaud. Je vois Nicolas Drabaudy prendre des notes. Il nous dira à peu près ce que ça représente que tous ces plats extraordinaires dans un instant. Eugénie Brasier était née en 1895, un 12 juin. Elle était née dans l'Ain, dans un village situé à 6 km de Bourg-en-Bresse qui s'appelle la Tranclière, dans une famille vraiment très modeste. Ses parents étaient des petits paysans, donc une enfance très rude. On la voit s'occuper des animaux de la ferme dès l'âge de 4 ou 5 ans. Elle doit s'occuper des cochons, d'une jument. Disons clairement qu'elle ne mange pas toujours à sa faim et qu'en guise de repas, il lui arrive de se contenter d'un bouillon de poireaux et de légumes cuits à l'eau. Elle ne mange de viande qu'une fois par an, racontera-t-elle. Elle va peu à l'école. C'était assez fréquent dans les campagnes, du reste. Elle ne va pas beaucoup à l'école, seulement l'hiver, quand vraiment il n'y a pas d'autre travail, quand on peut rien faire à la ferme, ben on envoie les enfants à l'école. Sa mère s'occupe d'elle, son père ne s'intéresse pas du tout à la petite fille. Il faut dire que c'est un homme brutal. À 10 ans, Eugénie voit sa mère mourir. Vous imaginez ce qui se passe. Elle va être placée par l'assistance publique dans une cuisine des fermes de la région où elle garde les cochons, où elle traite les vaches 3 fois par jour. Elle ne va presque plus à l'école cette fois, mais elle mange à sa faim, on s'occupe bien d'elle et c'est à cette période que Jenny va apprendre en quelque sorte les bases de la cuisine auprès de sa mère d'accueil. Elle va connaître la difficulté que peuvent rencontrer les jeunes filles du peuple à cette époque-là. À 19 ans, elle est enceinte d'un homme marié, elle va donner naissance à un fils, Gaston. Elle est définitivement mise à la porte par son père à ce moment-là. Elle, lui, ne supporte pas que sa fille soit une mère célibataire. Ça aussi, malheureusement, c'était fréquent. Et bien après la belle époque. Elle va laisser son garçon en nourrice, le petit Gaston, et elle va s'installer à Lyon, où elle est employée d'abord dans une famille bourgeoise, des fabricants de pâtes, les Milia. Elle est bonne à tout faire, hein, disons-le. Elle garde les enfants, et elle apprend la cuisine auprès de la cuisinière attitrée de la famille. C'est cette dernière qui va lui apprendre, par exemple, à mettre des truffes et des champignons dans ses sauces. Ça va jouer un rôle important pour l'avenir. Après quelques mois, la famille Milia part pour Cannes. La vieille cuisinière est considérée comme un petit peu trop difficile à transporter, si je puis dire. Elle va rester à Lyon. Et c'est Eugénie qui, pendant le temps de la villégiature cannoise, devient la cuisinière de la famille. Son premier menu, des macaronis au gratin et côtes de bœuf à la moelle, est un véritable régal. On peut dire que c'est une révélation pour la famille. Alors Eugénie, elle, ne rêve que d'une chose, c'est de mieux gagner sa vie. Elle voudrait récupérer son fils. Elle retourne à Lyon, elle se fait employer dans un restaurant. La mère Filiou, une des adresses les plus incontournables de Lyon en cette fin de Première Guerre mondiale. Évidemment, Lyon, c'est la capitale des Gaules, mais c'est aussi la capitale de la gastronomie française. Des rôtisseurs y font fortune depuis le début du XVIe siècle. En 1688, le consulat lyonnais décide de publier des règlements et statuts des poulaillers et rôtisseurs. Et tout autour, les coteaux de la région donnent d'excellents vins, bien entendu. Vous savez qu'à la fin du XVIIIe, Brillat-Savarin contribue beaucoup à faire rayonner cette grande gastronomie lyonnaise. Les femmes, à cette époque et dans cette région, sont assez nombreuses derrière les fourneaux et on les appelle les mères, d'où l'expression la mère brasier qu'on donnera à notre génie. Voilà ce qu'écrit Stendhal dans ses Mémoires d'un touriste. « J'ai vu spectacle touchant, une de ses filles, grosse maritone de 40 ans, pleurer de joie à l'occasion d'un canard aux olives. Soyez convaincus qu'à Paris, nous ne connaissons que la copie de ce plat-là. »
Alors vous mangerez à votre fantaisie des pains de sarrasin, des olives de Turquie, des blinis de Midoff, des liqueurs requiem, où le caviar repose sur son linceul de crème. Vous vous régalerez de trompettes des morts, de morilles plus bistres que la tête d'un mort, de sèches dans la rancre, de truffes en sarcophage, de gibier dans leur sauce aux couleurs de cirage. On servira des vins âpres de vieilles vignes, du chocolat amer, des mûres et des guignes, noirs dans les verres noirs et noirs dans les assiettes. C'est ainsi que sera le festin de Juliette.
Le festin de Juliette par Juliette elle-même sur Europe 1. C'est une émission gourmande que vous propose Franck Ferrand aujourd'hui à l'occasion de la sortie de la nouvelle édition du Guide Michelin. Franck Ferrand vous raconte cet après-midi l'incroyable histoire d'Eugénie Brasier, 2x3 étoiles au Guide Michelin. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est la gastronomie qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1, puisque vous avez décidé aujourd'hui, Franck Ferrand, de nous raconter l'histoire d'Eugénie Brasier. Alors on l'a vu, elle a déjà du talent pour la cuisine et elle va prendre des cours, tout apprendre à Lyon, dans la capitale de la gastronomie.
Oui, elle travaille chez la mère Filiou, où elle apprend tout, on peut le dire, et surtout, elle apprend ce que c'est que la noblesse des produits. Vous imaginez, pour cette petite fille qui ne mangeait même pas sa faim quand elle était petite, là maintenant, elle cuisine de la volaille demi-deuil, des fonds d'artichaut au foie gras truffé, enfin bon, évidemment, et elle est très douée. Elle a un talent extraordinaire. D'ailleurs, la patronne avait l'habitude, la mère Filiou, de faire un civet de lapin pour ses employés, et un jour, c'est Eugénie qui, pour diverses raisons, est obligée de faire le civet. Alors, quand même, la mère Filiou demande
demande ce qu'on pense. Et là, tout le monde regarde son assiette, personne n'ose lui dire. Et c'est sa fille qui répond. Je le préfère au tien parce qu'il est plus noir et plus goûteux, lui dit-elle. Ça va tendre les relations évidemment entre la mère Filiou et son employé. Ça se passe tellement mal que Jenny est obligée finalement de s'en aller. Elle va s'installer un peu plus loin dans un autre restaurant de Lyon, à la brasserie du Dragon. Mais comme elle a beaucoup de succès et comme les critiques gastronomiques déjà à cette époque commencent à la repérer, eh bien elle n'a qu'une idée, c'est de se mettre à son compte. Elle a un fils de 7 ans maintenant et elle voudrait bien que le petit Gaston connaisse une autre enfance que celle qu'elle a eue elle-même. Et là, un jour qu'elle est partie chercher des quenelles à l'épicerie comptoir où elle a l'habitude de se les procurer, au 12, elle apprend qu'au 12 de la rue Royale, donc dans le premier arrondissement de Lyon, une petite boutique est à vendre. Et là, elle se dit, c'est le moment ou jamais. Elle va réunir le peu d'économie qu'elle a, elle se débrouille et elle va ouvrir. Donc 12 rue Royale à Lyon. Ce restaurant qui s'appelle La Mère Brasier, elle est très fière. Il faut vous dire que son compagnon, qui est lui aussi un homme marié qui habite la rue Royale, l'a aidé, bien entendu. Elle a décoré la salle, elle a tout préparé, elle a bien amidonné les serviettes, tout est prêt. Au menu pour ce premier jour, langouste mayonnaise, pigeon cuit au petit pois et carottes. Tout est prêt, ça sent très bon, mais il n'y a personne. Pas un seul client pour le premier service, vous imaginez. Pour Eugénie, c'est terrible, c'est décourageant. Et c'est un peu la même chose le soir et le lendemain, etc. Et il va falloir attendre le dimanche soir pour que se remplisse enfin la salle du restaurant. Ça y est, le bouche à oreille commence à faire son office. Et alors là, ça va être remarquable. Eugénie, certes, travaille beaucoup. C'est vrai qu'elle doit beaucoup d'argent, mais elle a un certain succès. Levée à 7 heures, raconte Jean-François Mesplède dans Eugénie Brasier, un héritage gourmand. Elle repasse les serviettes encore humides, lavées la veille après le dîner et rincées à la bonne fontaine à l'angle de la rue Royale et de la rue Marceau. Elle va au marché acheter ses fruits et légumes. Elle n'a guère le temps d'aller chez les autres fournisseurs. Elle doit leur téléphoner et se faire livrer la marchandise. Néanmoins, on voit se précipiter chez elle des personnes de plus en plus connu. Je pense au maire de Lyon à l'époque, le très célèbre gastronome Édouard Herriot, bien entendu, qui va faire en quelque sorte la réputation d'Eugénie Brasier. Il dira d'elle plus tard, elle fait plus que moi pour la renommée de notre ville, en parlant de Lyon. Et c'est vrai que c'est ce qui va se passer petit à petit. Le prince des gastronomes, Kurnonski en personne, va écrire « Le génie de Madame Brasier avait su faire un véritable mets et combien délicieux. Le jus et le foie des volailles s'amalgamaient avec des oignons, de l'échalote et d'autres assaisonnements subtils. » Vous aurez compris que le secret, en quelque sorte, de la mère Brasier, c'est de savoir faire mijoter ses plats et de leur donner cette rousseur, ce fameux cinquième goût dont on dira peut-être un mot tout à l'heure. Alors, il se trouve que les organisateurs d'une course automobile qui est disputée dans la banlieue lyonnaise, qui doit passer en tout cas, elle traverse toute l'Europe, commandent à la mère Brasier 80 paniers repas. Le directeur de la marque d'huile qui sponsorise la course est tellement ravi qu'il va faire organiser un banquet à Paris pour 200 couverts et qu'il fait venir Eugénie pour préparer le repas. Là, elle est lancée, si je puis dire. Elle va bientôt pouvoir l'agrandir, son restaurant, et mettre ses fameux plats nobles, la langouste à la crème, etc., à son menu. Elle n'a jamais été à l'école, je vous l'ai dit, mais elle, maintenant, elle peut payer des études et de vraies études à son fils Gaston. À 33 ans en 1928, elle est néanmoins très fatiguée, car vous imaginez tout ce qu'elle a pu faire depuis son plus jeune âge. Elle dort très peu. Elle va finalement acheter pour une bouchée de pain une maison qui se trouve à 680 mètres d'altitude au col de la Luère. On est à 20 km de Lyon. Au départ, l'idée, c'est d'aller s'y reposer. C'est un modeste chalet, vous voyez, il n'y a même pas l'électricité, il n'y a même pas l'eau courante. Mais après quelques mois, elle va transformer sa résidence secondaire en restaurant. On ne se refait pas, qu'est-ce que vous voulez. Et le col de la Luère va devenir le nouveau rendez-vous national des gastronomes. C'est donc peu de temps après, en 1932, que Eugénie est récompensée. Ça va être dans l'édition du guide 1933. Elle est récompensée pour ses deux restaurants, deux étoiles dans un premier temps. Donc là, deux étoiles, ça veut dire mérite le détour, hein, si dans la terminologie habituelle du guide Michelin. Trois étoiles, c'est vaut le voyage. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. L'année suivante, elle fait donc partie des 23 restaurants à obtenir les trois étoiles. Elle fait partie des meilleures tables de France. Alors, si l'on lit l'édition 1933 du guide Michelin, Michelin, on repère dans la notice qui est consacrée à la mère Brasier, la quenelle financière, la volaille demi-deuil bien entendu, les terrines Brasier, c'est tout ça pour le restaurant de la rue Royale, et puis la volaille mère Brasier et les crêpes au Grand Marnier pour le restaurant du col de la Leuère. On a envie d'y être. De 1933 à 1938, les deux restaurants vont garder leurs trois étoiles. Le guide Michelin recense le gratin dauphinois, la fameuse langouste Belle Aurore, etc. Des prix de 30 à 40 francs en 1933. On est arrivé à 50 francs en 1939. C'est-à-dire que c'est bien sûr des prix assez élevés, mais qui restent raisonnables. Pour le décor, le guide Michelin indique que les deux établissements sont bien, mais sans luxe. Ça, je pense que ça ne vous étonnera pas tellement.
Si vous aussi vous aimez la gastronomie, eh bien cette émission est faite pour vous. Vous pouvez bien sûr venir nous rejoindre pour laisser tous vos messages sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Vous pouvez également tweeter avec le hashtag ACDH. L'histoire d'Eugénie Brasier continue sur Europe 1 dans un instant avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
À l'occasion de la sortie de la nouvelle édition du guide Michelin, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous raconter l'incroyable destin d'Eugénie Brasier, la chef, la mère Brasier, comme on disait à l'époque. De 1933 à 1938, elle obtient 3 étoiles pour ses 2 restaurants qui sont notés restaurants bien, mais sans luxe.
Oui, pour ce qui est du décor, évidemment. Il faut la voir aux cuisines, aux fourneaux. La petite mère Brasier, bien en chair, avec ses bras un peu rougis, son tablier et son chignon. Elle n'a pas de sommelier, elle n'a pas de maître d'hôtel. Elle veut que tout ça conserve un côté familial. Et c'est ce qu'on vient chercher chez elle. Alors, à côté de ça, elle contrôle tout. Elle est même assez autoritaire. Elle se montre intransigeante sur la qualité. On l'a entendu au téléphone dire un jour à un fournisseur de volailles, il faudra bientôt faire manucurer les volailles avant de les livrer. Elle se plaint évidemment aussi de l'exigence qui monte, mais c'est ainsi. Elle a le temps, de temps en temps, elle s'offre une semaine de vacances sur la Côte d'Azur, et alors elle en profite pour aller dîner tous les soirs dans un grand restaurant. Ça, c'est formidable quand on pense à cette petite fille si pauvre et qui maintenant se permet d'aller comme ça dans les grands restaurants où elle est accueillie toujours évidemment comme une sorte de sommité qu'elle est devenue. Alors, il y a des problèmes au moment des rationnements, vous savez, notamment juste après la guerre, parce qu'on n'a plus le droit de cuisiner comme on veut. Il y a des lois qui empêchent notamment d'utiliser trop de crème, de beurre, etc. Mais elle s'en moque, elle met encore plus de crème dans ses plats de courge. Ça va quand même lui valoir 8 jours de prison, ça. En mai 1946, après une fermeture administrative de quelques mois, le restaurant du col de la Leuère n'en rouvre pas moins ses portes. Et là, maintenant, c'est un restaurant de luxe que vous pouvez voir au col de la Leuère. Au même moment, un jeune homme de 20 ans, de retour à Lyon après avoir été démobilisé pendant la guerre, est embauché comme apprenti chez la mère Brasier. Est-ce que j'ai même besoin de vous donner son nom? Ce sera Paul Bocuse, bien entendu. Il va découvrir une véritable école de vie, car chez la mère Brasier, tout le monde met la main à la pâte dans toutes les activités. Il n'y a pas de saut métier d'une certaine manière. Les 2 restaurants d'Eugénie Brasier vont bientôt redevenir des adresses incontournables au guide Michelin, juste après donc l'interruption, on va dire, de la guerre. En 50, le restaurant du col de la Leuère devient restaurant de luxe. Vous savez, les 4 couverts, là. Et l'année suivante, il fait partie des 7 restaurants de la première promotion à 3 étoiles de l'après-guerre. Le Club des 100, vous savez, la célèbre assemblée de gastronomes, va décerner en 1955 un diplôme à la mère Brasier qui devient vraiment la personne chez qui il faut aller dîner. On trouve chez elle Marlène Dietrich, Rita Hayworth, le général de Gaulle, vous imaginez, elle est tellement courtisée qu'elle va même devoir refuser les offres d'un palace new-yorkais qui voulait l'installer aux commandes de la cuisine de ce palace. Mais ça ne l'intéresse pas, elle, ça, bien entendu. Elle a déjà plus de 60 ans, elle est toujours à la tête de son restaurant du col de la Leuère, mais celui de la rue Royale appartient maintenant à son fils Gaston, qui est très exigeant, qui veut que tout soit parfait. Alors en 48, le guide Michelin a mis 2 étoiles à ce restaurant qui va conserver ces 2 étoiles jusqu'en 1972. Eugénie voudrait néanmoins essayer de prendre un peu de recul. Seulement, le problème, c'est que ses proches n'ont pas son talent et que le résultat ne se fait pas attendre. Le restaurant du col de la Leuère perd sa 3e étoile en 1960. L'année suivante, le restaurant n'est même plus étoilé. Et Eugénie Brasier va devoir reprendre la main. Alors on voit les étoiles revenir. Une étoile en 62, puis trois en 63. C'est la première fois qu'un restaurant d'ailleurs passe d'une à trois étoiles d'un coup au guide Michelin. C'est une petite exception. Ces trois étoiles, la mère Brasier les conservera jusqu'en 68. Et puis en 68, le col de la Loire est rétrogradé à deux étoiles. En mars 74, Eugénie perd son fils Gaston qui a fait un infarctus. Elle va se retirer définitivement et elle mourra le 4 mars 1977 à 81 ans. Je me rappelle la mort de la mère Brasier. Ça a fait les gros titres à l'époque, bien entendu. En 2003, une rue Eugénie Brasier est inaugurée dans le premier arrondissement de Lyon. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a le Grand Prix Eugénie Brasier pour récompenser un ouvrage de cuisine. Mais enfin, ça nous entraînerait un peu loin de nos préoccupations. Le restaurant lyonnais a été repris en 2008 par Mathieu Vianney, qui est meilleur ouvrier de France et qui a donné un grand coup de jeune à l'établissement, sans rien oublier pour autant de ce qui avait fait une légende vivante de l'ardente Brasier. L'ardente Brasier, c'est le nom que lui avait donné Jacques Prévert. Bonjour messieurs, je suis ravi avec vous de parler non seulement d'Eugénie Brasier, mais de tous ses chefs, de toutes ses maisons. Au-delà des personnes, de cet art de vivre qui fait rêver le monde entier.
Europe 1, au cœur de l'histoire.fr.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Extrait du concerto gastronomique de Vladimir Kosma. Vous avez reconnu bien sûr sur Europe 1 la bande originale du film L'aile ou la cuisse. C'est la gastronomie française qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 puisque nous parlons du guide Michelin. Vous recevez Franck Ferrand, Michael Ellis, directeur international des guides Michelin, et Nicolas de Rabaudy, chroniqueur de gastronomie.
Alors, il faut dire, Michael Ellis, que ce film de Claude Zidi, L'aile ou la cuisse, avec Louis de Funès et Coluche, a beaucoup fait pour populariser le guide Michelin, parce que, alors, il s'appelle Duchemin, en fait, dans le film. Et alors, on voit Louis de Funès se déguiser de toutes les façons possibles pour n'être pas reconnu dans les restaurants qu'il va inspecter. C'est un peu ça, la vie d'un inspecteur du guide Michelin?
Écoutez, c'est vrai que les inspecteurs sont anonymes quand ils vont au restaurant, mais on a heureusement suffisamment d'inspecteurs qu'ils peuvent faire les rotations dans les départements, dans les régions, pour pas être repéré, mais l'anonymat est quand même vraiment quelque chose de clé dans le travail d'un inspecteur.
L'anonymat et l'indépendance d'une certaine manière, puisque au guide Michelin, on paye sa note, il faut le dire ça, Nicolas Drabaudy.
Bien sûr, on paye et on visite éventuellement, après qu'on ait payé, la cuisine et, si c'est un hôtel, les chambres et les dépendances. Le Michelin a fait beaucoup pour la propreté et l'hygiène. Je me souviens que Jacques Manière, qui a été étoilé à la fin de sa vie, boulevard Saint-Germain, avait des WC dans la cour et ça l'a perturbé toute une vie, presque toute une vie. Il a mis 25 ans à avoir une étoile. C'était un très grand cuisinier.
Alors voyez, on n'a pas parlé plus de 45 secondes entre nous et déjà ce mot étoile arrive. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on dit étoile? Ce sont des étoiles, ce sont des macarons? Qu'est-ce que c'est précisément, Michael Ellis?
En fait, l'étoile était inventée en 1926. Et effectivement, c'était pour, à l'époque, le guide Michelin avait vraiment pour objectif d'aider les voyageurs, aider les automobilistes à rouler. Et
oui, on va y venir, ça, bien sûr, c'est toute
exactement
l'histoire du guide. Oui.
Et donc, l'étoile était pour l'indication d'un hôtel qui avait un restaurant particulièrement bien. Ça, c'est avec une étoile. Et après, en 1931, on a fait 1, 2 étoiles. Il a créé 1, 2 et 3 étoiles. Mais la référence était pour les hôtels avec un bon restaurant. Et après, à partir de 1936, les étoiles étaient attribuées au restaurant.
D'où vient cette expression macaron qu'on entend constamment?
C'est une bonne question. Moi, on n'a pas su savoir exactement l'origine.
Oui, pourquoi on dit ça?
L'origine,
ouais.
je pense que
ce ne sont pas physiquement, ce ne sont pas vraiment des étoiles. Hein, quand on les regarde bien, c'est une espèce de petit dessin comme une petite fleur, en fait.
Exactement. Donc ça, l'étoile elle-même était jusqu'au début des années 40. Et après, c'était cette fameuse étoile qui ressemble un peu plus à un fleur, si on veut, qu'on appelait aussi un macaron.
Alors, ces étoiles, elles jouent un rôle essentiel dans la vie des grands cuisiniers. Évidemment, elles ne concernent pas les milliers de très bons cuisiniers hein, qui font par ailleurs et qui sont dans le guide. Il ne faut pas l'oublier. Oui, on est très loin d'avoir que des restaurants ouais. étoilés dans ce guide. Loin de là. Ouais. Il y a combien d'établissements d'ailleurs répertoriés ?
Il y a 600 restaurants étoilés. Hein.
Oui. Tout à fait.
Il y a 600 restaurants étoilés. Donc, il y a à peu près, cette année, il y a 26 3 étoiles.
Oui.
Il y a 82 étoiles. Et le reste, c'est des restaurants, une étoile, c'est-à-dire c'est le début de la marche.
Et au-delà, il y a des milliers de restaurants qui sont mentionnés, qui ne sont pas...
Il y a 4349 restaurants, dont le guide Michelin.
Et il faut les saluer, parce que je me fais cette remarque tous les ans, même si j'ai le plus grand respect et admiration pour les grands chefs étoilés, évidemment. Mais je me dis qu'il y a beaucoup de chefs qui font un très bon travail, qui se lèvent très tôt, qui font une cuisine magnifique bien souvent, et qui n'ont néanmoins peut-être pas la grâce particulière ou les spécificités qui vont faire qui amènent l'étoile. Mais qui n'en sont pas moins tout à fait dignes de notre respect.
Hein. C'est important de dire. Ça tombe bien, parce qu'on a créé cette année, justement, on a les distinctions Michelin, on a les étoiles, 1, 2, 3. On a le Bib Gourmand, qui représente un rapport qui a été pris particulièrement bon. Ça veut dire, à Paris par exemple, un entrée plat et dessert pour 36 euros ou moins. Et cette année, on a créé la distinction l'assiette Michelin. L'assiette Michelin, c'est pour tous les restaurants dans le guide, qui sont dans la sélection, mais qui n'ont ni étoile, ni Bib Gourmand.
Alors, dès qu'on parle d'un classement, et c'est vrai dans tous les domaines, alors là, ce serait intéressant d'ailleurs de parler de ça, dès qu'on parle d'un classement, il y a à la fois la magie, bien entendu, avec cette sorte d'onction divine, et puis en même temps, il y a la dureté d'un classement dans lequel vous pouvez entrer, mais dont vous pouvez aussi sortir. Et je trouve que l'exemple de Génie Brasier est très parlant, puisque on voit cette femme qui, très jeune, dès ses débuts, dans la fougue de l'énergie vitale, va recevoir très vite ses 2 fois 3 étoiles, donc elle est au firmament, et puis après, l'âge venant, les difficultés de tous ordres, familiales, financières ou autres, et administratives, disons-le, dans son cas, vont faire que les étoiles vont peu à peu disparaître. Elle va les voir s'étioler, ces étoiles. Ça fait partie, ça, de la vie d'un établissement,
alors,
Nicolas Drabaudy.
C'est extrêmement
Drabaudy.
Juste, évidemment. La mère Brasier, elle a été faite par les étoiles.
Eh oui.
Puisque les étoiles sont le signe d'une certaine qualité et la plus grande pour elle. 2 fois 3 étoiles, vous voyez, il va falloir attendre la dernière partie du XXe siècle pour trouver des grands cuisiniers à avoir 2 fois ou 3 fois 3 étoiles, comme Alain Ducasse ou Joël Robuchon, et je ne parle pas des restaurants hors de France. La mère Brasier, elle a su glorifier son travail par son talent. En d'autres termes, la cuisine, c'est ce qui vous valorise. Hein, l'art de la main, l'art du cerveau qui transmet à la main, comme dit Joël Robuchon, tout ça, ça fait une grande cuisinière. Et à Lyon, il y avait une population phénoménale, puisque vous avez cité Édouard Herriot, le premier citoyen de la ville, qui vient plusieurs fois par semaine.
Eh oui,
plusieurs fois,
oui.
Il se fait livrer des poulards chez lui.
C'est ce qui s'appelle de la publicité. Là. Qu'est-ce qu'on mange chez la mère Brasier ? J'ai cité les noms, mais alors, par exemple, c'est quoi cette langouste Belle Aurore ?
Eh ben, c'est la langouste du dimanche. Elle fait ça le dimanche. C'est le plat du dimanche. Hein. Il faut dire, quand on est très étoilé comme elle, il faut faire des plats de luxe. Hein. La cuisine lyonnaise, ce n'est pas du luxe.
Il faut qu'il y ait du foie gras, de la truffe, de la langouste.
Elle emploie du foie gras pour la poularde de Mideuil, mais elle fait de la truffe dans les artichauts, hein, artichauts aux truffes, et artichauts au foie gras. Mais ça fait seulement 6 ou 7 plats. La cuisine lyonnaise, elle est chiche en nombre de plats, n'est-ce pas ?
Oui,
si on voit des cartes comme celle de Joël Robuchon à la grande époque où il y a 20 plats, 25 plats, elle n'en est pas là.
Alors on parle d'elle, de la cuisinière, etc. Moi, sur la scène Place Vendôme hier matin, je n'ai vu que des hommes, Michael Ellis.
Écoutez, cette année, chaque année, la sélection reflète ce que les inspecteurs ont trouvé sur le terrain. Des années, on est riche en cuisinières, enfin en féminin. Cette année, c'était pas le cas. Mais il faut savoir que les inspecteurs, quand ils vont tester un restaurant, ils ignorent ni le sexe, ni l'origine, ni l'âge.
Ils sont très renseignés.
On est là simplement pour la qualité de l'assiette.
Alors vous-même, vous êtes du métier, il faut le dire. Vous êtes américain, on aura repéré votre petit accent, même si vous parlez un français extraordinaire. Est-ce qu'il y a chez vous, comment dirais-je, à titre personnel, Michael Ellis, il y avait une fascination du guide Michelin avant d'y entrer, si
bien
je puis dire.
Bien sûr, bien sûr. Depuis, je pense que quand on découvre le guide Michelin, moi j'ai eu le bonheur de travailler comme commis dans un restaurant qui avait une étoile à l'époque, dans les années de fin des années 70 à Paris. Et une fois qu'on a travaillé dans une cuisine qui est répertoriée dans le guide Michelin, qui a une étoile, nous on avait une étoile, on sent tout de suite cette appartenance à la famille Michelin. Le Michelin chez les cuisiniers, c'est quelque chose qui est viscéral. On veut vraiment, c'est vraiment une reconnaissance très importante. L'objectif numéro un, c'est de remplir son restaurant, mais la reconnaissance du Michelin est importante.
Et cette reconnaissance est peut-être d'autant plus forte qu'elle est entourée de ce que Roland Barthes appelait le noumen. Il y a du mystère. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on ne sait pas exactement sur quels critères sont établies les classifications. Et l'on ne sait pas, tout à l'heure vous nous disiez qu'on ne sait pas qui est inspecteur. J'ai même posé la question, je vous avoue, de façon tout à fait innocente en arrivant dans ce studio tout à l'heure. Je vous dis, mais alors, combien avez-vous d'inspecteurs? Et vous me dites, on n'a pas le droit de le dire.
Écoutez, on a ce qui est important, le message qu'on passe, c'est qu'on a assez d'inspecteurs pour faire le travail, pour faire les inspections, parce qu'on a des inspecteurs partout dans le monde. Les inspecteurs sont des locaux, ils sont des Français en France, des Italiens en Italie, des Américains aux États-Unis, ainsi de suite. Mais on les fait bouger partout. On les fait venir les Américains en France, on fait envoyer des Français au Japon. Donc c'est très important qu'il y ait une homogénéité dans le guide, dans l'étoile, dans les distinctions. Évidemment, la cuisine à Madrid n'est pas pareille que la cuisine à Tokyo, mais la qualité doit être comparable.
Alors, sans quitter la légende, nous allons replonger dans un instant au cœur de l'histoire pour revivre la fantastique épopée d'un guide qui a 116 ans cette année.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand
et Grignoté.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Il y avait des arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel des oiseaux rigolos. Il y avait des marbres par-dessus les tombeaux, et parfois même gravés des mots beaux. Il y avait des vaches, des veaux et des taureaux, une vache qui marche, c'est beau. À la route amie que j'avais faite ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça. Il y avait la pluie sur le toit de l'auto, quand une pluie est gentille, c'est beau. Il y avait des gouttes qui pleuraient au carreau, sur une route qui doute, c'est beau. Et soudain des pompes que l'on prenait d'assaut, une pompe qui pompe, c'est chaud. À l'amour ami que la vie fit ce jour-là, fut un amour poésie avec moi. Il y avait des phrases par-dessus les oiseaux, quand une phrase d'extase, c'est beau. Il y avait la lune par-dessus les coteaux, mais une lune pas brune, c'est beau. Et dans la campagne, un vieux train qui passait à travers la montagne pressée. Des barrières de douane à jamais abrogées, et Dieu merci Saint-Antoine, c'est vrai.
Il y avait des arbres, Charles Trenet sur Europe 1 pour cette émission consacrée au guide Michelin, car effectivement c'est hier qu'est sortie la nouvelle édition, l'édition 2016 de ce guide. Michael Ellis, directeur international des guides Michelin, est votre invité, Franck Ferrand, en compagnie de Nicolas de Rabaudy, chroniqueur de gastronomie.
Oui, j'aime beaucoup cette chanson de Charles Trenet qui est la douceur de la France incarnée, hein, cette chanson. Et on peut dire que le guide Michelin, au départ, c'est ça en 1900, Nicolas de Rabaudy. C'est un guide pour les automobilistes. Il n'y en a pas beaucoup à l'époque d'automobilistes.
Il y a 5000 automobilistes en 1900. Et le problème, c'est qu'ils tombent en panne et qu'ils veulent des garages, des postes pour envoyer du courrier et des chambres pour se loger. Au début, c'est l'aide à la mobilité. Ça, c'est la grande idée du guide Michelin. C'est-à-dire, on aide les gens à se déplacer. Il se trouve que c'est en voiture et après ça sera par le train et tout le reste.
Bah, il faudrait peut-être pas oublier que Michelin fournit les pneumatiques quand même.
Voilà, bien sûr, c'est une conséquence formidable de leur travail d'usinier en pneus.
Ça joue un rôle important pour le groupe Michelin, l'existence de ce guide actuellement, Michael Ellis?
Écoutez, le guide Michelin fait partie du ADN. Vraiment, le guide Michelin fait partie de l'ADN du groupe Michelin. Comme disait Nicolas à juste titre, le guide Michelin, c'est une aide pour la mobilité. Parce que les frères Michelin, André et Edouard, qui ont créé le guides étaient des vrais visionnaires. À l'époque, il n'y avait même pas 4000 automobilistes en France. Ils avaient compris, pour vendre de pneus, il faut que les gens roulent. Et pour user leurs pneus, pour acheter des nouveaux pneus. Donc, le guide a été créé justement pour encourager les automobilistes pour prendre leur voiture.
Et le bibendum, c'est-à-dire le bonhomme en pneumatique, si je puis dire, il naît à quel moment, à quelle époque?
Le bonhomme Michelin était le fruit de l'imagination d'un dessinateur qui s'appelle Ogallo. C'était créé en 1901. Et le bonhomme bibendum, donc, il était construit des pneus, des pneumatiques. Et son légende, c'était le pneu Michelin boit l'obstacle. Nunc est bibendum en latin.
Et, voilà,
et donc ça veut
le
dire
moment
que...
est venu de boire en latin.
Exactement. Mais et le pneu Michelin buvait des obstacles, les clous, les tissons de verre. Donc c'était un pneu qui pouvait résister à tous les obstacles de la route.
Cet ouvrage paraît avec le XXe siècle, avaient affirmé les frères Michelin. Il durera autant que lui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque...
Avec un succès phénoménal. Je vous ai dit, 600 000 exemplaires en 1999.
Oui, voilà. Alors, depuis, ça a baissé, parce qu'évidemment, il y a eu la révolution numérique et l'effondrement de l'édition papier. Mais enfin, quand même, ça reste de
quand
grosses
ventes. 120 000 exemplaires, chiffre annoncé par le guide, c'est pas rien du tout. Si vous faites un roman à 120 000 exemplaires, vous pouvez être content.
Oui.
Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont... Ils ont pris le virage magnifique du numérique.
Alors, on voit les hôtels et la classification apparaître dans le guide en 1904, avec évidemment déjà les premières, une première codification d'une certaine manière. Et puis, en 1909, on permet au lecteur, et ça c'est important, ça existe encore, hein, quand on ouvre le guide Michelin aujourd'hui, on tombe sur une enveloppe, et cette enveloppe, elle est adressée au guide Michelin, et elle est destinée à vous permettre de donner vos propres commentaires. C'est-à-dire que les lecteurs, et ça, c'est dans les gènes même de cette institution.
Les lecteurs recommandent les adresses.
C'est ça. Ce sont eux-mêmes qui disent, vous devriez aller voir là-bas, il y a quelque chose qui vaut le détour. Vous recevez beaucoup de ce courrier encore actuellement ?
Entre des contacts qu'on a par nos lecteurs, entre les courriers papier, les courriers électroniques et les appels téléphoniques, c'est entre 30 et 35 000 par an en France. Donc ça montre qu'on a cette population des amateurs de Michelin qui sont vraiment, ils tiennent vraiment à cœur le guide. Et c'est eux qui aussi qui nous donnent un peu les alertes si on voit, s'ils voient un restaurant particulièrement bien ou à visiter.
Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, le guide était gratuit. Ça a changé. Et d'autre part, il était parcellaire, c'est-à-dire que toutes les régions n'étaient pas couvertes. Il faut attendre 1931 pour que l'ensemble du territoire national soit complètement couvert. C'est-à-dire que les inspecteurs du Michelin sont partout, Nicolas Drabaudy.
C'est-à-dire que dès les années 30, il y a un maillage qui se fait, n'est-ce pas, par des gens qui vont être des inspecteurs, mais qui sont des employés de la société Michelin. Et c'est grâce à eux qu'on va avoir les plus grandes tables de France.
Et oui, voilà.
Les plus grandes tables. Fernand Point.
On crée tout simplement ce qu'on appelle une émulation. Alors je vois bien les messages arriver. Je ne les oublie pas, les messages Facebook notamment, qui nous disent attention, n'oubliez pas les drames, n'oubliez pas la dureté. Mais dès qu'on parle d'excellence, si on parlait de ballet par exemple, de danse, que ce soit classique ou contemporaine d'ailleurs, on serait bien obligé de parler de la difficulté, de la dureté. Dès que vous êtes dans un domaine d'excellence, moi je connais un peu mieux le domaine du vin par exemple, c'est la même chose. Dès que vous êtes que vous voulez aller vers un dépassement, une émulation, une sorte de concours vers la perfection, eh bien forcément ça se fait au prix d'un certain nombre de drames, il faut le dire. Et c'est peut-être ce que notre époque a un peu de mal à accepter. Alors cette émulation au milieu des années 30, elle va voir émerger un certain nombre de noms, Nicolas Drabaudy.
Bien sûr,
je pense à la mère Brasier, puisque
Fernand
je l'ai cité.
Point,
ah ben voilà.
Premier grand restaurateur français.
On dit la Vienne chez Point. Comme on
chez
disait.
Vienne, un point c'est tout.
Voilà.
Où Sacha Guitry s'est marié. Mais après, du Maine, à Saulieu, Pic à Valence. Et après,
André
c'est
Pic, grand,
André Pic,
bien sûr.
Grand-père de Anne-Sophie Pic, première femme 3 étoiles. Et après, à Paris, les grands établissements mythiques.
Il y a Maxime, c'est évidemment.
La Tour d'Argent.
La Tour d'Argent, dont
Maxime,
on a parlé à ce micro.
Lucas Carton, qui sont encore là. Sauf Maxime, qui hélas n'est plus ce qu'il était. Et Paul Bocuse. Grand phare de la grande cuisine française, 3 étoiles en 1965.
Alors c'est intéressant parce qu'on cite ces noms, et bien sûr Bocuse et leur pape, si je puis dire, c'est tout à fait naturel. On cite tous ces grands noms, mais il faut bien être conscient que, notamment dans le cas de certains chefs qui ont plusieurs restaurants à leur enseigne, ce ne sont pas eux qui sont au fourneau. Donc le guide ne récompense pas le chef, il récompense la table, l'assiette, comme on dit.
L'établissement, exactement. Un chef n'a pas les étoiles, c'est l'établissement. Ça veut dire que le chef, son équipe, ses installations, c'est un l'étal. Et c'est très important parce que quand un chef étoilé, comme on dit dans le langage courant, part, il part pas avec ses étoiles. C'est l'établissement qui retient les étoiles jusqu'à ce qu'on puisse tester avec des inspecteurs pour vérifier le niveau de la cuisine.
Alors, ce qu'il y a de passionnant, c'est l'évolution de la notion même de guide. Vous êtes bien placé, vous, Nicolas Draboudi. Il y a combien de temps que vous faites des critiques gastronomiques? Quelques décennies, on va dire.
Ans, oui. Oui.
Bon, vous avez vu tout ça évoluer. Je parlais de Goemilio tout à l'heure. Il faudrait citer Lebert, enfin d'autres grands guides, bien entendu, et notre ami Jean-Luc Petit-Renaud, qu'il ne faut jamais oublier. Sûr, bon, ces guides sont nés, certains sont morts, d'ailleurs, depuis. Enfin bon, ils n'ont pas détrôné le guide Michelin, mais il y a eu, dans les années 60 et 70, une espèce de vogue pour une approche plus littéraire des choses, alors que le guide Michelin est toujours resté d'une sécheresse un peu institutionnelle.
Voilà, sécheresse, c'est le mot. Il n'y avait pas de texte. Maintenant, voilà, il y a trois lignes, mais Henri Gault et Christian Millau, ils font des pages entières. Ils noircissent des pages de leur guide.
C'est très différent comme
approche.
Donc,
il y a une littérature
gastronomique, disons.
Une façon de voir, une façon de concevoir la cuisine, qui est capitale dans l'histoire de la gastronomie française.
Alors ça, c'était il y a 30 ans, mettons, ou 40 ans.
Ça.
Sauf que, depuis une dizaine d'années, il y a une autre concurrence qui apparaît. Alors, celle-là n'est pas mince. C'est la concurrence, bien entendu, d'Internet et des réseaux sociaux, avec notamment tous les, je ne vais pas citer de, en quoi qu'on peut, TripAdvisor, etc. Bon, ça, c'est une concurrence terrible pour un guide comme
Mais
Michelin.
Absolument, absolument. Ça vous explique que le guide est passé en 35 ans de 600 000 exemplaires à 120 000. Il y a d'autres moyens de communication, le web notamment.
Alors, qu'est-ce que vous diriez, Michael Ellis, à ceux qui sont tentés d'aller plutôt voir sur des sites spontanés sur Internet?
Bah, je pense que c'est tout à fait naturel d'abord, mais il faut pas. Moi, je pense que le guide n'a jamais été aussi pertinente, parce que dans cette marasme des avis,
on entend tout et son contraire.
Exactement.
Hein. Sur le même restaurant, vous pouvez lire une table divine et deux lignes plus bas, un endroit épouvantable.
Et voilà.
C'est quand même énorme.
Merci Franck, c'est exactement ça. On ne sait même pas si l'avis est lié avec une vraie expérience. Est-ce que la personne qui a laissé cet avis a vraiment allé au restaurant? Est-ce que c'est un ami du restaurateur? Est-ce que c'est un concurrent? On ne sait pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec cette marasme, cette pléthora d'avis de partout, tout le monde peut être un critique gastronomique. Je crois que le public a besoin d'une étoile nord, au moins un baromètre, ou au moins quelque chose, un gold standard, comme on dit en anglais, pour voir, un peu mettre un peu d'ordre, ou au moins une référence dans tous ces avis.
Alors, l'édition que j'ai entre les mains, là, c'est l'édition rouge, bien entendu, c'est France, donc le guide Michelin 2016, mais il y a des guides Michelin pour d'autres pays, bien entendu.
Bien sûr, on a une présence d'une façon ou d'une autre dans 24 pays aujourd'hui. On est des guides pays, par exemple, pour tous les pays principaux européens. On a des guides villes aux États-Unis, New York, San Francisco, Chicago. On a des guides pour les grandes villes au Japon, un guide Hong Kong, Macao. On a lancé l'année dernière le guide Rio, Sao Paulo. Ouais. On lance cette année Singapour. Donc le guide est en train de se développer parce qu'on est très, très recherché par les pays.
Oui, bien sûr. Imaginons, Nicolas Draboudi, que les guides en général et le guide Michelin n'existent plus. Je ne voudrais pas vous donner d'ulcère à cette heure-ci, Michael Ellis, mais imaginons, c'est une... qu'est-ce que la gastronomie française en particulier perdrait?
Alors, elle y perdrait beaucoup, parce que dans les verdicts du guide, il y a des restaurants qui sont dans des toutes petites villes, 2300 habitants. Ils ont, par exemple, le Refuge des Gourmets qui a une étoile, c'est à Massignac. La Gouenière, c'est en Ille-et-Vilaine, à 1200 habitants. Qui va trouver ça? Qui va célébrer? La cuisine, c'est la célébration. Qui va célébrer ces gens-là, fabriquer des clientèles nouvelles et faire venir des gens?
Est-ce qu'il n'y en a pas qui, quand même, passent à travers les mailles du filet, si je puis dire?
Ah, sûrement, mais si vous voulez, personne ne maille le territoire comme les inspecteurs du Michelin, qui sont payés pour ça et qui font ça avec passion.
Il faut durer, si je puis dire, durer combien d'années avant d'être vraiment repéré par les inspecteurs de votre guide, Michael Ellis?
Écoutez, nous, les inspecteurs changent de département, ils changent de région chaque année, et en général, c'est entre 6 et 7 ans avant qu'ils reviennent dans le même secteur. Donc je pense, à quelques exceptions rares, les inspecteurs peuvent garder l'anonymat.
D'où l'importance, cette fréquence relativement modérée de présence, d'où l'importance de l'avis des lecteurs, bien entendu, qu'ils s'expriment par Internet ou qu'ils s'expriment par courrier. Il faut qu'on vous renseigne, en quelque sorte, et qu'on vous éclaire parfois sur ce qui peut exister dans le fin fond d'un terroir un peu reculé. Et parfois, ce sont des perles qu'on découvre.
C'est très utile pour nous d'avoir ce dialogue avec nos lecteurs, bien sûr.
Merci beaucoup d'avoir été aussi clair et aussi franc sur tous ces aspects. Le guide Michelin, donc 2016, ça je ne vous apprends rien parce qu'on vous le dit et le répète depuis hier matin, est paru, il est partout en vente et c'est un peu la Bible, non seulement du gourmet, mais du voyageur tout simplement.
Restons à table sur Europe 1 dans un instant. Franck Ferrand vous donnera les origines des nappes et des serviettes. Est-ce une création française ? Réponse dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et pour cette émission consacrée à la gastronomie, forcément, c'est une question de circonstance, Franck, pour vous. C'est une question que vous pose Anastasia sur europe1.fr. Depuis quand utilise-t-on des nappes et des serviettes de table et est-ce que c'est une invention française?
Alors, vous savez que pendant très longtemps, on mangeait avec ses doigts, tout simplement, qui n'était pas forcément aussi sale qu'on l'imagine. Ça ne veut pas dire qu'on y mettait tous les doigts et toutes les mains, mais enfin, bon, c'était la façon de faire. Et on n'avait pas d'assiette, on utilisait souvent un grand morceau de pain qu'on appelait le tranchoir. Bon. Et puis, on a remis, je dis bien remis, la nappe à la mode au Moyen-Âge. Cette nappe, elle avait existé pendant l'Antiquité. On le voit d'ailleurs sur les coupes peintes de la Grèce antique, on voit ces petites tables qui sont recouvertes de nappes. Alors évidemment, la nappe était un lin extrêmement fin autrefois qui permettait de donner un peu de raffinement au souper et qui permettait aussi d'emporter quelques aliments lorsqu'on avait fini. Ça n'est plus le cas au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il s'agit surtout, et à la Renaissance, de recouvrir les très tôt, de donner un peu d'allure à la table et puis surtout, on s'y essuie les mains, les doigts, la bouche. On se sert de la nappe quasiment comme d'une serviette aujourd'hui. C'est André Castelot qui nous raconte ça dans l'histoire à table. Il nous explique qu'on changeait la nappe même à plusieurs reprises pendant un grand service parce que il fallait à chaque fois, renouveler le linge qui n'était pas toujours très propre. Les serviettes étaient changées ensuite à chaque service et la nappe à l'entremets. Pourquoi à l'entremets? Parce que ça tombait après les sauces. Alors petit à petit, le linge de table est devenu un élément là encore de raffinement, comme du temps de l'Antiquité, et aujourd'hui ça fait partie intrinsèque d'un beau dîner. Une belle table, un beau dîner, une bonne cuisine, si vous n'avez pas un joli linge de table, à mon avis ça ne vaut rien.